c'est pas si grave qu'en fait le tour d'une montagne soit plus fort, c'est un petit coup de déprime, enfin voilà, ce truc de diminuer. Prenons le temps effectivement d'écouter activement en fait les autres, de s'intéresser aux autres en fait, ça s'appelle de l'empathie, hein. Mais sans, voilà, sans jugement, et en étant effectivement, voilà, une oreille attentive qui interroge ce que ressent en fait la personne. Pourquoi elle le ressent? Quand est-ce qu'elle le ressent? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ce genre de choses plutôt que, voilà, des jugements ou des injonctions culpabilisantes.
Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Christelle parmi nous et on va parler de sensibilisation. Est-ce que tu peux te présenter, Christelle?
Salut Clément, salut tout le monde. Alors moi, je suis Christelle, la fondatrice d'un média qui tente de dédramatiser et démocratiser la santé mentale, plutôt pour les 18-35, parce que entre le choix des sujets, des exemples et des médiums, c'est plutôt voilà, cette tranche d'âge-là que ça s'adresse, mais en vrai, c'est ouvert à toutes et tous. Hein. Et l'idée, c'est de parler de santé mentale à travers un regard culturel et sociétal. Donc, c'est-à-dire de donner la parole effectivement à des pros de la santé mentale, donc des psychiatres, des psychologues, des athos, mais aussi à donner la parole à des artistes, à des sportifs, à des entrepreneuses, à des activistes de la santé mentale, pour vraiment montrer que la santé mentale, elle est partout. Elle est dans nos têtes, elle est dans nos relations aux autres, affectives, relations au travail, et puis aussi dans notre relation au monde. On le voit de plus en plus avec l'exemple de l'éco-anxiété, qui est un mélange effectivement entre l'incertitude liée au réchauffement climatique et ce que ça provoque sur notre monde intérieur. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer que tout est full santé mentale. Et du coup, on le fait via une newsletter qui est pareil toutes les semaines, presque toutes les semaines, trois fois par mois, des podcasts et puis des contenus éducatifs sur Insta et TikTok.
Et justement, comment est-ce que toi tu vois cette dédramatisation? Parce que c'est un sujet dont tout le monde parle, il y a toujours ce côté où c'est tabou, etc. Mm-hmm. Et toi, justement, dans ta vision, qu'est-ce qui est important pour dédramatiser?
Il y a plusieurs choses en fait. Il y a la manière dont on parle de santé mentale déjà. Donc soit on en parle, alors jusque présent, de moins en moins maintenant, hein, mais jusque présent on en parlait de manière anxiogène, c'est-à-dire en montrant la santé mentale comme un sujet qui avait attrait à des maladies très graves, à de la violence, à de la folie, à de l'exclusion. Donc ça, c'est le premier truc. Après, il y a aussi tout le langage santé mentale qui est très technique parce que c'est aussi un savoir scientifique, mais donc du coup pas forcément accessible à tout le monde. Et puis après, il y a ce truc aussi montré que la santé mentale a pendant longtemps été considérée comme un sujet de seconde zone parce que impalpable, parce que intangible, et donc du coup aussi parce que un peu superficiel. Donc pour moi, effectivement, ce côté dédramatisé, c'est vraiment à aller décocher toutes ces cases en montrant que c'est important, que c'est un sujet de santé publique et qu'on peut en parler à la cool avec des mots simples.
Et c'est tellement dur de le faire parce que moi, le premier, en fait, quand j'ai été diagnostiqué comme personne bipolaire, tu te retrouves où en fait, tu as des articles scientifiques un peu imbuvables. Ouais. Qui sont volontaires, mais c'est pas beau, ça donne pas envie. Et puis, tu n'as pas envie spécialement de te faire une conférence d'une heure et demie qui parle d'un truc spécifique. Et comment tu fais justement pour vulgariser, à ton avis, ce que tu me parles de Instagram et TikTok, je suis très curieux parce que je connais assez peu. Et comment tu fais sur ces médias-là justement?
Comment je fais déjà dans ma manière de travailler, c'est que moi, pour le coup, je lis hein, tous ces rapports scientifiques, un peu imbitables, etc. Et moi, mon taf de journaliste, c'est d'aller effectivement le synthétiser avec des mots qui sont accessibles sans dénaturer le propos scientifique derrière. Donc du coup, ça veut dire lire plusieurs types de revues, croiser les infos, beaucoup parler aussi avec des pros hein, de la santé mentale, parce que c'est quand même eux qui en premier en parlent le mieux, et c'est dans nos discussions effectivement que j'arrive le mieux à décrypter les infos. Donc ça, c'est sur la façon de travailler. Et après, sur Instagram et TikTok, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a, bon, déjà, il y a beaucoup de contenu éducatif qui se présente sous forme de carrousel. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le temps de présenter les choses. Et après, c'est des contenus qui sont très incarnés pour TikTok. Donc, ça veut dire hosté par une personne qui prend la parole. C'est Jade, chez nous, qui le fait, qui se réapproprie, bien sûr, les codes de TikTok. Mais voilà, qui va effectivement traduire finalement ces contenus longs en contenu engageant sur TikTok. Donc, ça veut dire, ouais, de la vidéo, des carrousels, pas mal de définitions aussi, tout simplement, hein, en post sur Insta, pour reposer les bases, et puis pas mal d'extraits d'interviews que moi je fais en podcast, des extraits vidéo des interviews qu'on remonte en Reels sur Insta.
Ah ouais, non, c'est assez multiple. Et y a un truc dont tu as parlé, c'est la terminologie. Et moi, c'est un sujet qui me tient de plus en plus à cœur parce que je prends par exemple la bipolarité. Par exemple, moi, j'essaie d'utiliser le terme la bipolarité. J'essaie d'éviter d'utiliser le terme le trouble bipolaire.
Ouais.
Il y a le côté parce que, en fait, on parle déjà de trouble. Et en fait, je trouve, bah, je suis curieux d'avoir ton avis, mais en fait, dans la santé mentale, il y a beaucoup de termes qui sont hyper négatifs. Quand tu es bipolaire comme je peux l'être, tu vas avoir potentiellement, tu vas faire des demandes pour devenir travailleur handicapé. Et donc le terme handicap est mal connoté. Demander une pension d'invalidité parce que tu es invalide. Et même le terme d'invalidité, je ne sais pas, c'est hyper négatif. Tu as l'impression que tu ne peux pas faire quelque chose. On va dire. Et c'est un peu le côté, t'es malade. Alors, je dis pas qu'on n'est pas malade, mais tu sais, tout est assez négatif. Un peu pour dire, alors qu'on pourrait très bien dire, bon, bah, t'es différent, t'es clair, t'es neuroatypique, qui sont des mots qui sont pas négatifs. Et je suis curieux d'avoir ton avis de pourquoi est-ce que c'est fait comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire justement. Enfin, qu'est-ce que t'en penses déjà?
Ben, j'en pense qu'effectivement, dans l'usage de certains mots, ça dénote aussi que les personnes qui sont atteintes, qui ont des troubles psychiques ou des troubles de la santé mentale ou atteintes de problématiques de santé mentale, en fait, on considère qu'il leur manque quelque chose, qu'elles ne sont pas aptes à faire quelque chose. La notion d'invalidité, effectivement, dont tu parles, c'est comme si on n'était pas validé, on n'était pas valide, en fait, pour la norme sociale qui est considérée comme étant la bonne. Donc, ouais, il y a ce côté, effectivement, de manquer quelque chose, de manquer de rationalité, de manquer de force physique, de manquer de stabilité émotionnelle. Et donc, du coup, oui, ça réduit la personne. Il y a aussi une deuxième chose qui est de réduire une personne à son trouble aussi. Et ça, c'est un vrai problème parce que typiquement, il ne serait quand même pas admis de dire sur une maladie physique, prenons le cancer, on n'appelle pas les gens les cancéreux. C'est quand même sacrément tendu de faire ça. Mais par contre, pour les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, il n'y a pas de souci de dire le bipolaire. Il n'y a pas de souci de dire le ou la schizophrène. Et donc, voilà, on a tendance à ce qu'on appelle essentialiser les personnes qui sont atteintes de troubles de la santé mentale derrière, voilà, derrière uniquement leurs troubles, alors qu'elles sont bien plus que ça. Et donc, du coup, ouais, je pense que voilà, c'est ces deux éléments voilà, où on les considère comme il leur manque quelque chose, qu'elles ne sont pas insérables socialement dans la société. Et aussi, donc, du coup, on les réduit à leur maladie.
Et c'est super dur. Hein. Enfin, moi, le premier, j'ai tendance à le faire pour moi-même. Hein. Et alors que, oui, bah, j'ai une vie, quoi. J'ai une personne. Et non, mais c'est intéressant. Mais c'est pas simple. C'est un peu comme si on nous avait ancré quelque chose dans le cerveau et qu'il fallait un peu déconstruire ça.
C'est ça.
Je me pose la question, d'ailleurs, de l'imagerie qu'on a dans la santé mentale. J'ai été. C'est des films, tu vois. Je pense toujours à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je sais pas si tu vois.
Bah oui, bien sûr.
Et ça m'a marqué, je me rappelle, quand j'étais petit, et de, tu sais, le côté asile, avec, ou même tu prends des films, je sais pas, Shutter Island, où DiCaprio se retrouve dans une île où c'est des personnes qui ont été emprisonnées parce qu'ils ont une maladie psychique, quoi.
Bah oui.
Et toi, tu vois un peu des initiatives ou même des choses pour déconstruire ça, parce que c'est pas facile, vu que c'est assez ancré.
Bah, c'est vrai que c'est le début, et puis voilà, la santé mentale a été et encore en vrai, un sujet tabou. Nous, on a l'impression que ça va de moins en moins parce qu'on est dans un peu notre microcosme de l'activisme de la santé mentale, mais enfin, en réalité, c'est quand même encore un sujet tabou, surtout en France. C'est sûr que le Covid a mis un coup de projecteur sur le sujet. Après, oui, moi je trouve qu'il commence à y avoir quand même une évolution dans la mesure où on voit quand même de plus en plus. Bah déjà de séries en fait qui parlent de santé mentale sans forcément être un sujet tabou. Il y a Mental typiquement qui le fait sur France Télévisions. Il y a plein d'autres séries qui anglo-saxonnes également et qui se servent limite de ce côté un peu de l'éducation, enfin de l'entertainment, pardon, pour en faire voilà, une saine éducative, ce qu'on appelle l'edutainment. Et donc, ouais, y a une évolution par rapport à ça. Il y a quand même de plus en plus d'artistes et sportifs qui prennent la parole dessus, à ce sujet, y compris des hommes hein, aussi en France. Je dis ça parce qu'en fait, le sujet de la santé mentale est tabou pour tout le monde, mais encore plus pour les hommes.
Ouais.
D'autant plus pour les hommes qui se considèrent hétéros. Du coup, il y a une évolution. Après, il peut y avoir aussi un risque où, pour le moment, on n'est qu'à la première phase, c'est-à-dire à la phase de libération de la parole. Donc là, ça part un peu dans tous les sens et je pense qu'on a besoin de ça. Mais il va falloir quand même passer à la phase numéro 2, qui est en fait la formation, l'éducation à l'écoute sur la santé mentale. Mais bon, ça, c'est comme tout mouvement voilà, social et émancipateur. On a la même chose avec MeToo. Il y a un moment où la parole est libérée. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés parce qu'après, il faut éduquer. Mais voilà, en tout cas, on en a encore sur la phase 1, je pense, par rapport à la santé mentale.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et je suis curieux d'avoir ton avis de pourquoi, justement, encore plus chez les hommes hétéros, c'est encore plus tabou, c'est encore plus difficile.
Bah parce que la santé mentale, ça a trait à la vulnérabilité. Quand on parle de santé mentale, ça veut dire évoquer, mettre des mots, sur des émotions. Sur une sensibilité, ça veut dire accepter effectivement de la vulnérabilité, des moments où ça va moins bien et je pense qu'il y a encore beaucoup dans notre société, malheureusement, le mythe de la virilité, mais virilité effectivement dans le sens toxique du sens quoi. Et donc du coup les hommes hétéros n'ont pas voix au chapitre sur voilà, exprimer leur vulnérabilité. Il n'y a qu'à voir dernièrement, je ne sais pas quand ce podcast sera diffusé, mais voilà, dernier moment, quand on va sur TikTok et sur YouTube, que des mecs comme Andrew Tate, qui est en fait un espèce de coach, influenceur hyper masculiniste, et qui parle effectivement de la vulnérabilité chez les hommes en disant que voilà, c'est vraiment inacceptable les hommes qui sont vulnérables, et que voilà, ces vidéos font des millions de vues sur TikTok et sur YouTube. Ouais, enfin, en fait, il y a encore beaucoup ce genre de rôle modèle et qui marche et qui prend. Et donc, du coup, ouais, je pense que c'est lié à ça.
Ouais, mais c'est intéressant, en fait. C'est au final une lutte d'idées. Et c'est vrai qu'il y a cette partie, ouais, libéralisation, libérer la parole, qui est des fois un peu, t'as l'impression des fois que c'est super et c'est bien. Mais en même temps tout le monde n'a pas besoin de potentiellement publiquement faire les choses. Enfin, je ne sais pas comment dire. T'as l'impression des fois, et moi le premier, hein, j'ai été un peu dans cet extrême-là, déjà, tu as du mal à l'accepter. Tu poses la question, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est. Et une fois que tu l'acceptes, tu es un peu dans l'extrême à vouloir le dire à tout le monde.
Ouais.
Et tu le dis, mais non, en soirée, moi, je me rappelle, je rencontrais quelqu'un en soirée, je dis, je suis polaire, machin. Et en fait, après coup, tu te dis, en fait, j'ai pas besoin d'en parler à quelqu'un que je connais pas, c'est pas important. Ouais. Et c'est seulement mes potes proches qui vont limite le savoir.
Ouais.
Et c'est vrai que je sais pas si ça sera comme ça. Quel est ton avis, hein, comment tu vois les choses?
Bah, je pense que c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la libération de la parole. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à en parler à tout va, mais du coup, le risque aussi, c'est que là, on a bien ouvert les vannes et que du coup, il y a aussi un risque de glamourisation de la santé mentale. C'est cool, en vrai, d'être potentiellement, d'avoir un trouble bipolaire. C'est cool, effectivement, il y a même qui le mettent dans leur bio Insta. En fait, voilà, comme si c'était un supplément d'âme artistique ou un supplément d'âme quelconque, alors qu'en vrai, c'est une vraie galère. Hein. Enfin, c'est un trouble. Donc, voilà, je pense qu'il voilà, y a eu une grosse pudeur. Là, il y a un effet de mode aussi, clairement, sur la santé mentale. Il ne faut pas se leurrer. Et je pense que voilà, là, ça fait un peu des va-et-vient entre tabou et effet de mode et qu'au bout d'un moment, on va tomber sur le bon curseur et qu'on va passer à cette fameuse phase où, OK, maintenant, est-ce qu'on peut s'intéresser vraiment à ce que... Qu'est-ce que ça implique en fait? C'est quoi les troubles? C'est quoi du coup les diagnostics? C'est quoi du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place surtout pour que ça aille mieux en fait pour ces gens-là? Et c'est bien de prendre la parole, mais ça ne va pas suffire.
Et c'est vrai que bon, je suis assez d'accord avec toi, tu as toujours ce côté, ces extrêmes. Et c'est vrai qu'on le voit, hein, le côté un peu super humain, et d'autant plus lorsqu'on est une personne bipolaire, quand tu es en phase maniaque, en fait, tu as tendance à un peu croire que tu es super fort, super puissant. Et je pense que c'est aussi lié à notre pathologie, ce qui fait que tu as tendance des fois à surestimer ce qu'il en est. Mais ça va prendre du temps. De toute façon, c'est comme tout. Et, Et tu parlais aussi de tout ce qui est inspiration et le fait que ce soit des personnes qui vont justement évoquer ces sujets. Et je trouve que c'est quelque chose un peu essentiel de montrer la santé mentale, mais de montrer des personnes qui en fait ont un boulot stable, ont potentiellement réussi et qui vont parler de ces sujets-là. Comment est-ce que tu vois cette communication et enfin, je ne sais pas, et comment, quels sont les mouvements que tu vois, c'est-à-dire comment les personnes qui ont, par exemple, un trouble psychique arrivent à s'exprimer et à en parler d'une manière qui ne va pas glamoriser les choses, parce que ce n'est pas le but, mais de pouvoir en fait lever les tabous. En termes de communication, qu'est-ce que tu vois justement et qu'est-ce qui marche?
J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti!
Moi, je trouve que ce qui marche, c'est quand on laisse la parole aux gens suffisamment longtemps pour pas tomber dans ce truc effectivement du piège à clic, où ça dure 3 minutes sur un plateau ou sur une vidéo, mais voilà, qu'on prend le temps d'expliquer. Et puis aussi qu'on prend le temps aussi de montrer que c'est pas noir ou blanc, en fait. C'est ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est intéressant de montrer aussi des personnes qui sont insérées socialement, qui sont insérées professionnellement, qui vivent au sein de l'espace public et qui sont pas effectivement des personnes inaccessibles, soit parce qu'elles sont enfermées dans des hôpitaux psychiatriques, soit inaccessibles parce que c'est des stars, en fait. Et donc, du coup, t'as ce côté, en fait, oui, mais la normalité, elle est où? Et t'as beaucoup de personnes, la majorité, en fait, l'idée, c'est de vivre avec son trouble, mais voilà, au quotidien, en étant inséré socialement. Et moi, je suis plutôt, effectivement, enfin, partie prenante de se rétablir grâce au collectif, se rétablir dans l'espace public, se rétablir effectivement dans des processus d'inclusion. Donc plutôt ça. Typiquement, je trouve qu'il y a, je sais pas si tu connais le psychiatre, médecin psychiatre qui a également un centre de réhabilitation à Montpellier, Nicolas Rinto.
Oui, je l'ai interviewé sur le podcast, justement.
Ouais, voilà. Bah, typiquement, je trouve que sa démarche autour de la réhabilitation, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que voilà, ça va dans cette démarche de se rétablir grâce au collectif. Et moi, je suis plutôt de cette école-là.
Ah ouais, et de toute façon, on le voit bien, on est des humains. Ce qui nous fait nous lever le matin et sortir d'une dépression ou autre, c'est quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et c'est souvent des choses très simples. Ça va être. Pouvoir avoir un appartement qui est sympa, avoir un copain, une copine, enfin, et en fait, on en revient à ces choses de vie. Il y a vraiment ce côté où tu parles d'entertainment que je trouve très intéressant et en même temps pas si simple que ça à mettre en place parce que au final, c'est comme ça que tu peux libérer énormément la parole et que tu parles de sujets et en même temps, c'est un sujet qui est aussi sérieux. Il y a un peu ce mix. Comment, enfin, toi, tu vois les choses, comment est-ce que tu peux mixer un peu les deux parce que. Il faut pas non plus raconter n'importe quoi parce qu'il y a quand même des bases scientifiques et en même temps, bah, il faut quand même qu'on s'amuse. Enfin, moi, je dis toujours, enfin, les personnes qui écoutent le podcast, bah, en fait, ils sont en concurrence avec une émission de foot ou une émission de, j'en sais rien, d'amour ou quoi. Et donc, ils doivent prendre du plaisir, mais en même temps, ils viennent là mais pour avoir et pour apprendre quelque chose. Comment est-ce que toi, tu arrives à mixer un peu les deux et enfin, je suis curieux d'avoir ton avis, de voir comment ça se passe.
Bah, moi, c'est par rapport à la langue sociétale dont je parlais en intro. C'est en fait de parler de santé mentale par le prisme de plein de choses. D'en parler par le prisme, certes, scientifique, mais aussi de la littérature, des séries, du sport, de la musique, de l'entrepreneuriat. En fait, pour que les gens s'y intéressent, moi, je pars aussi de leur centre d'intérêt. Et en fait, en vrai, les centres d'intérêt des gens, ce n'est pas la santé mentale, au premier abord. Bah, on n'est pas encore là. Hein. Mais c'est plutôt, oui, enfin, c'est effectivement, c'est du sport, c'est des questions de société, c'est de l'économie, c'est de l'art, etc. Et de rentrer en fait par ces sujets-là pour ensuite parler santé mentale, bah, généralement, effectivement, c'est des points d'entrée qui donnent envie, en fait. Typiquement, dans la newsletter, le principe, c'est que je pars de faits de société et je les analyse avec la loupe de la santé mentale. Donc, je peux parler autant des apps de rencontre et de la santé mentale que de l'éco-anxiété et du coup de l'engagement en faveur de la lutte pour l'environnement, que de sport et de santé mentale, que de musique et de santé mentale, même que d'élections et de santé mentale. Enfin, en vrai, tu peux parler de tout, donc même que de rêves. Voilà, qu'est-ce que mes rêves disent de ma santé mentale. Donc voilà, ça, c'est des sujets, c'est des points d'entrée qui font moins flipper en fait que la santé mentale. Donc tu rentres par là et après, tu arrives en fait à donner des infos, à démocratiser des concepts et des notions scientifiques. Ça, c'est sur la manière de construire des sujets. Et après, nous, de manière très visuelle, on a une charte graphique très pop, très colorée, avec beaucoup de personnages illustrés. Enfin, voilà, on est plutôt dans quelque chose d'assez accueillant et positif, quoi, comme écran aussi, visuel.
Ah non, mais c'est important. Le côté positif et arrêter, tu l'as très bien dit, arrêter le côté oxygène.
Ouais.
Et toujours d'avoir des têtes tristes et en gros, on a été condamné par le... Enfin, c'était intéressant, j'en parlais ce matin avec une personne qui vient d'Afrique du Nord, donc d'Algérie. Mmh. Okay. Et en fait, eux, ils voient ça énormément basé sur la religion. Quelqu'un qui a, ouais. En fait, qui a un trouble psychique, c'est souvent quelqu'un qui a été... qui respecte pas Dieu, qui prie pas assez. Et en fait, ils font le lien avec le concept vraiment d'aller voir un imam comme exorciste... Et c'est intéressant hein, de voir un petit peu le lien qui peut être fait et de voir les interprétations qu'on peut avoir, même si je sors un peu du sujet, mais de lier la santé mentale, en tout cas, avec un sujet qui est plus inspirant en fait, à côté, donc sport, la musique, etc., pour en faire quelque chose de divertissement. On n'en a pas du tout parlé, mais alors, les gens en parlent un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Maintenant, en parler avec ses proches, c'est autre chose. Et, ouais. Et c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression d'ailleurs que tu as des personnes qui vont publiquement un petit peu dire sur les réseaux sociaux, mais ils vont pas spécialement avoir la même conversation pendant 2 heures avec leurs potes. Et qui ouais. peut-être encore un autre sujet, parce que c'est pas libérer la parole de manière publique, mais c'est beaucoup plus intime. Quels sont les conseils que tu donnerais par rapport à ça et qu'est-ce que tu vois qui est fait?
Déjà, je pense que c'est plus simple de parler peut-être sur les réseaux sociaux parce qu'en vrai, tu as une vraie fausse proximité avec les gens. Ce n'est pas des proches en fait, à qui tu t'adresses. C'est effectivement à une caisse de résonance qui va te permettre d'éventuellement de créer des liens de solidarité avec des gens que tu ne connais pas en vrai et qui ne te connaissent pas en vrai. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de le faire au sein des proches parce que il y a encore ce truc de, on ne sait pas quelles vont être les réactions des gens parce qu'en vrai, on n'est pas encore super formé sur l'écoute de ces sujets-là. Il peut y avoir plein de clichés encore. Il peut y avoir, je pense, des phrases blessantes aussi. Je pense qu'on a peur de s'entendre dire ça. Et après, en termes de conseils, effectivement, quand une personne vous parle de ces problématiques de santé mentale, ne diminuez pas ça, en fait. Ne le diminuez pas. Évitons les phrases, je dis pas, ça va aller mieux, c'est pas si grave, t'en fais toute une montagne, sois plus fort, c'est un petit coup de déprime, ce truc de diminuer. Prenons le temps effectivement d'écouter activement en fait les autres, de s'intéresser aux autres en fait, ça s'appelle de l'empathie, hein. mais sans jugement et en étant effectivement une oreille attentive qui interroge ce que ressent en fait la personne. Pourquoi elle le ressent? Quand est-ce qu'elle le ressent? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ce genre de choses plutôt que des jugements ou des injonctions culpabilisantes.
Non, mais clairement, et l'écoute au final, surtout sur les sujets qu'on ne connaît pas, c'est quand même le premier réflexe à avoir. Je connais le sujet, j'écoute, j'acquiesce, ouais. Je pose des questions. Mais c'est des réflexes qui sont tellement humains et tellement classiques, mais qu'on a tendance un peu à oublier parfois.
Ouais.
Mais tu as raison, il faut les répéter. Et je suis curieux aussi de savoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très générationnel aussi, notamment ouais. sur les troubles psychiques, entre notre génération et la génération de nos parents. Et comment tu expliques qu'il y a un fossé aussi important, notamment dans la relation et le fait d'en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a un fossé énorme, en fait.
C'est générationnel, parce que déjà, même avant le Covid, moi, au début, j'ai commencé à bosser sur Musaïm, mais avant de le lancer, il y avait déjà, avant la pandémie, donc avant le premier confinement, il y avait déjà des chiffres qui disaient que 64% des 20-25 avaient envie de parler de santé mentale, que c'était un sujet de société de première importance pour eux, mais seulement 7% osaient le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'écrin, effectivement, possible, médiatique, personnel, pour évoquer le terme, ne serait-ce que pour évoquer le terme. Parce que déjà, à début 2020, le terme santé mentale était quand même beaucoup moins connu et reconnu que maintenant. Moi, je me souviens, au tout début de Musaé, quand j'expliquais que je voulais lancer un média sur la santé mentale, on me disait « Ah ouais, bah c'est super, par contre, tu ne veux pas changer de nom » C'est-à-dire plutôt bien-être, en fait, mental. Je dis « Bah non, en fait, on parle de santé. » Donc, pas déjà bien-être, c'est deux choses différentes. Mais voilà, ça posait effectivement beaucoup plus de problèmes que maintenant. Et après, je pense que c'est générationnel par rapport à cette question de la vulnérabilité. Et que on a été pendant très longtemps dans ce qui ne te tue pas te rend plus fort et à encaisser les coups et effectivement être dans un truc de société super performative où voilà fallait beaucoup travailler beaucoup accumuler de richesses beaucoup de success stories effectivement enfin la vulnérabilité n'était pas très très à la mode et je pense que là elle l'est plus parce que on est aussi dans une société qui a de plus en plus de mal à accepter aussi la violence, qu'elle soit symbolique ou physique. Et tant mieux, hein. Mais c'est ça, c'est aussi l'évolution historique de manière générale. La violence telle qu'on la connaît aujourd'hui, notre seuil de tolérance par rapport à ça est beaucoup moins élevé qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Ça, c'est une évolution sociologique classique.
C'est bien dit, la vulnérabilité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu vois, je trouve que c'est un mot qui nous revient et le fait d'accepter qu'on a des failles, qu'on a le droit de le dire, on a le droit de dire quand ça ne va pas. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de commun. Enfin, je pense même personnellement, c'est pas le truc qui revient tout le temps.
Ah mais ouais, mais là, moi, je dis que c'est hyper important la vulnérabilité, mais je galère aussi, hein. Enfin, franchement, et depuis que je bosse sur Musaé, ça va un peu mieux. Mais ouais, enfin, moi, c'est typiquement, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais particulièrement à l'aise non plus, hein, honnêtement.
Ouais, et pourtant, c'est tellement fort. Et surtout, ouais. Hein, on est tous les deux entrepreneurs, c'est ce que c'est, il y a quand même des hauts et des bas.
Pas du tout, non, c'est génial. Ouais, c'est clair, il y a des hauts et des bas, c'est un roller coaster émotionnel, c'est clair.
Et le fait de pouvoir en parler, de dire, ne serait-ce que, je galère un peu en ce moment, ça fait vraiment du bien. Si tu avais une baguette magique pour régler un truc dans la santé mentale, tu réglerais quoi ?
Moi, ce que je réglerais en premier, c'est de rendre la santé mentale accessible aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de moyens financiers, des personnes qui sont exclues socialement de la société, les personnes racisées, les minorités de genre, les femmes, les sans domicile. En fait, parce que les vraies problématiques de santé mentale, c'est aussi lié en fait à des problématiques d'inclusion sociale avant toute chose. Et c'est pas un truc de riche en fait. Les personnes qui galèrent le plus, c'est les personnes qui sont plus vulnérables. Donc ouais, vraiment l'accessibilité aux soins en santé mentale gratuit, ce serait vraiment effectivement mon coup de baguette magique que j'aimerais beaucoup avoir.
Franchement, hyper intéressant, Christelle. Je pense qu'on fera un back-to-back. C'était court, mais c'était nickel chrome.
J'ai beaucoup aimé la spontanéité. Oui, parce que pour info, en fait, je ne savais pas qu'on faisait un podcast aujourd'hui. Et donc, du coup, c'était comme ça, en live.
Non, non, trop bien. Et à une prochaine. Et je te laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, gardez la pêche. Salut Clément, salut tout le monde.
Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, hopstage.com. hopestage.com et je vous dis à très bientôt.